Vous écoutez
RMC. RMC, la une des grandes gueules du sport.
Le dédoublement Nuno Mendes dans le dos de Mourinho, le centre de Nuno Mendes, Rulli qui la touche, la frappe et le but, et le but, et l'ouverture du score. Ballon relâché par Rulli.
Allons, pas de désespoir, il y a encore plus grave que ça.
Oh, le rouge, carton rouge pour Harit.
Oui, oui,
c'est dur, de mettre un rouge là-dessus.
Non, c'est pas grave, Pierre, je n'ai rien senti.
Et le but, c'est le but pour le Paris Saint-Germain, 29e minute, mais quelle cagade de la part de Balerdi.
Ah oui, quand même.
Oui.
Allez.
Ouh, comme dans du beurre, comme dans du beurre, le Paris Saint-Germain à 11 contre 10. Le troisième but du Paris Saint-Germain signé Barcola.
Ah, qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce que c'est que cette folie collective?
Coup de sifflet, voilà qui est fait, terminé. Ici, au Vélodrome, qui va certainement gronder, qui va siffler également après cette défaite de l'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain. Paris s'impose encore une fois ici, au Vélodrome.
J'en peux plus. Oh, je vais dormir comme une masse.
Il y a une semaine, à cette heure-là, tout Marseille se prenait à rêver de punir enfin le PSG à la maison, à rêver de jouer à touche-touche avec les Parisiens jusqu'à la fin de la saison. Quelques heures plus tard, l'OM, vous le savez, est revenu sur terre. Triste réalité, 3-0, impuissance totale, comme depuis trop longtemps. Et de l'aveu des joueurs, hein, cette semaine, ils ont tous eu une longue gueule de bois. Le rebond, peut-être, c'est ce soir à Nantes. La musique qui fout les jetons. Et cette question: le crash face au PSG va-t-il laisser des traces? Oui ou non? Cyril Linette.
Non, en tout cas, il ne faut pas.
Non. Jérôme Pinault.
Oui, malheureusement, oui.
Simon Dutin.
Non.
Marie Martineau.
Oui.
J'ai deux oui, deux non. Avant de débattre, on va écouter Roberto De Zerbi. C'était en conférence de presse juste avant la rencontre face à Nantes. Et il reconnaît évidemment les difficultés de ces derniers jours.
Cette défaite contre le PSG, avec toute l'importance du match et sa physionomie, a été difficile à digérer. Ça nous a pesé, pas seulement lundi, mais les jours suivants. Mais les garçons se sont bien entraînés, on tient à aller de l'avant, même si personne ne voulait que le match se passe de cette façon.
Le crash face au PSG va-t-il laisser des traces? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. On commence avec un oui. Jérôme Pinault, pourquoi oui?
Oui, parce que c'était déjà le premier rendez-vous. On a fait monter la sauce depuis le début de l'année. On attendait ce match avec impatience. On s'est dit que peut-être cette année, avec un Paris Saint-Germain qui est pas au-dessus de la mêlée, on pensait Marseille capable de rivaliser. On pensait Monaco aussi en même temps. Mais ce match-là était le match attendu. Et puis, au bout de 5 minutes, patatrac, on a compris qu'il y avait encore un large fossé. Et je pense que les Marseillais eux-mêmes, à l'image de leur public, qui a quitté en partie le stade à la mi-temps, les Marseillais, les joueurs, le staff, ils croyaient eux-mêmes. Et je pense qu'après ce match-là, ils ont pris un grand coup sur la tronche. Alors, est-ce qu'ils vont faire sur le podium? Je dis pas qu'ils peuvent pas, mais en tout cas, la rivalité avec Paris, il n'y a plus. Et ça, ils ont pris un coup sur la tête, d'autant plus qu'on connaît quand même tous très bien ce club, en tout cas de l'extérieur. On sait que la moindre petite chose allume une étincelle et ça peut péter à tout moment. L'immunité de De Zerbi va-t-elle durer? Est-ce qu'on va pas remettre en cause plein de choses? On a déjà l'affaire Papin cette semaine. À mon avis, c'est un vrai tournant et il n'attendait pas dans ce sens-là le tournant, je pense.
Ok, c'est un vrai tournant pour toi. Cyril Linette.
Il peut laisser des traces, mais il ne doit pas laisser de traces, pour revenir sur votre question. Et Pablo Longoria, c'est son boulot. Il peut pas avoir donné, il y a une dizaine de jours, une très belle interview dans l'équipe dans laquelle il a dit fini le court terme. Je me suis souvent précipité. Il a fait un vrai mea culpa. C'était super intéressant. Je travaille sur 3 ans. J'ai compris qu'il fallait pas moi-même que je sois dans le match d'avant et le match d'après parce qu'il était beaucoup trop court-termiste et interventionniste. Et puis, laisser la situation dériver. L'OM est moins fort que le PSG, c'est un fait depuis des années. La vraie difficulté, à mon avis, du Classico, c'est que les Marseillais se mettent une pression énorme pour jouer ce Classico, mais les Parisiens aussi. C'est bien un truc qui reste de l'ADN du PSG d'avant.
Il y a que
c'est
ça,
quand même, c'est que ça. C'est-à-dire que les joueurs du PSG sont pas forcément hyper mobilisés par la Ligue 1 à chaque fois, sauf contre l'OM. Ils ont compris vis-à-vis de leurs supporters qu'il fallait le faire. C'est pour ça qu'ils ne leur laissent aucune chance depuis 13 ans et qu'ils affichent le pire bilan, je pense, l'OM, de tous les clubs de Ligue 1 face au PSG. C'est pas un hasard. Donc ça, il faut mettre ce sujet de côté. Je pense que la responsabilité du club, et je suis d'accord, hein, l'histoire Papin, enfin, tout ça, ça compte. Je minimise pas du tout l'environnement. La responsabilité de Pablo Longoria et de ses équipes, c'est vraiment le test. C'est de faire en sorte que ce match soit à nouveau arrangé dans le rayon, malheureusement, des choses logiques. C'est-à-dire, l'OM n'est pas au niveau du PSG, mais il faut reprendre la saison.
Ce qui risque de laisser des traces aussi, Cyril, c'est le fait du comportement des joueurs,
ouais, c'est ça.
De l'attitude comment peut-on expliquer à un public, à une France entière qui attendait, une partie de la France attendait ça, le comportement dès le départ du jeu.
L'adversaire,
t'as perdre un match et t'as laissé couler. T'as l'impression que cette envie que l'on pense être marseillaise, c'est-à-dire que cette envie d'aller à l'Agnac, de tout renverser, du petit contre le grand, finalement c'est Paris qui l'a montré.
Le PSG leur a laissé aucune chance.
Et souvent,
dans les commentaires de match, j'entends souvent ça. J'entends souvent, ils sont pas allés au charbon, ils sont pas allés suffisamment. Mais il y a un adversaire en face. Quand le PSG se met dans ce mode-là, on l'a vu sur les 20 premières minutes, qui consiste à dire, techniquement, on fait pas une erreur, on les prive de ballon, et que vous avez la malchance de prendre un but, puis après un carton.
C'est donc significatif du fossé qui est
le match aurait pu entre les deux.
Tu vois, Cyril, c'est là où je me dis que, en tant que spécialiste du foot, tu vas avoir une tendance à vouloir défendre cette équipe de Marseille. Mais moi, si j'ai regardé un petit peu sur les réseaux, et même les supporters l'avaient vraiment mauvaise toute la semaine, tu vois, et c'est là où je me dis que ça va être compliqué pour eux de se relever parce que ils leur trouvent aucune excuse, ils leur donnent pas d'excuses quoi. J'ai lu des trucs du type équipe sans courage, équipe sans personnalité, et c'est vrai que ces images catastrophiques d'un stade complètement vidé à la mi-temps,
complètement vidé, mais en tout cas les supporters qui quittent le stade,
sièges, tous ces sièges blancs et tout, c'est lourd de sens quoi. Et ça, faut s'en relever, tu vois. Et même si tu les excuses, ça va pas être évident pour eux. Hein.
Je l'ai toujours dit, diriger l'Olympique de Marseille, c'est le job le plus dur, je pense, du foot en France. C'est le job le plus dur parce que vous êtes à la tête d'une communauté qui ne peut vivre qu'une frustration. C'est la pire situation possible parce que non seulement l'OM ne peut plus aujourd'hui, c'est une question de moyens, ne peut plus envisager le titre de champion, mais en plus celui-ci revient tous les ans au club Oni. Et donc une ville qui se vit comme la capitale du foot l'est peut-être d'un point de vue ferveur, mais ne l'est plus d'un point de vue palmarès, c'est depuis longtemps. Donc c'est très dur, et je suis d'accord, cette déception, elle est à la mesure de la passion de cette ville qui s'enflamme, et des médias aussi qui s'enflamment.
Et d'autant plus,
vit avec son public, cette équipe vit par sa nature.
Mais d'autant plus parce qu'il y a un ascenseur émotionnel qui a été hyper vexant.
Ça a duré 5 minutes.
Et justement, je voudrais revenir là-dessus.
C'est vrai.
Parce que on parle de mental quand on dit est-ce qu'ils peuvent se relever, est-ce que ça va laisser des traces. C'est forcément dans le mental des joueurs. Avant la rencontre face au PSG, peut-être que nous, médias, on les avait conditionnés, mais forcément, eux, c'était conditionné en se disant « cette année, c'est peut-être la bonne ». Et là, en fait, en l'espace de quelques heures, ils se disent
«
Non, comment on se relève dans une semaine comme ça ? Est-ce qu'on peut imaginer que l'OM n'est plus la même fin ?» Parce qu'ils se disent « En fait,
tu vas jouer à Nantes le dimanche d'après. »
En fait, on joue plus la première place, on joue pour être le meilleur derrière le Paris Saint-Germain. Ça change quelque chose dans un sportif de haut niveau.
Moi, je pense qu'on s'est inquiété parce que on s'est inquiété toute la semaine parce que on s'est emballé un petit peu avant. Voilà, on a vu en effet les Marseillais, on a voulu voir les Marseillais capables d'aller chercher Paris. On est comptable de ça, nous, les médias, parce qu'on veut évidemment cette rivalité.
Ben oui.
On veut un De Zerbi qui transforme tout d'un coup l'OM d'un coup de baguette magique. Greenwood, Brassier, Rabiot, Mopé, Wai, Rowe, Cornelius, Rouli, faut intégrer tous ces mecs-là. Faut pas oublier que l'effectif a énormément changé. De Zerbi, c'est un mec qui, je pense, a une vision non pas court terme, mais qui s'est engagé sur un projet. On n'oublie pas, tout c'est impensif dans notre business, tout va très vite à Marseille. S'il gagne ce soir, il passe deuxième de Ligue 1. S'il gagne à Nantes, bon, si demain il se réveille en étant deuxième devant Monaco du championnat, je pense que tout va se calmer.
Alors pour le coup, les résultats de hier vont peut-être
l'effet de loupe cette rivalité, ce match contre Paris, évidemment, qu'on attendait. On n'oublie pas que le match n'a eu lieu que durant 20 minutes. Alors 20 minutes durant lesquelles le PSG a été exceptionnel, a roulé sur un OM qui n'était pas au niveau et qui aurait certainement perdu cette rencontre sans la décision arbitrale qui a quand même...
refait pas le match. Hein.
D'accord, mais sauf que tu peux aussi te dire dans la semaine qu'à 11 contre 11, il y avait moyen de tirer le frein à main tactiquement, de changer quelque chose et de répondre à ce que Paris proposait. Sur les 4 derniers matchs, 2 défaites, 1 nul, 1 victoire. Bon, tu soulignes avec justesse, Jérôme, que l'AS Monaco vient de se faire taper par Angers en faisant un match catastrophique, enchaîner 2 défaites de suite, ça arrive à tout le monde. Monaco, toute la semaine avant leur rencontre contre Angers, on disait t'avais les deux petits Ben Seguir et Akliouche qui disaient oui nous on peut aller chercher Paris, et ça dérangeait personne. Donc un Greenwood qui referait un bon match, j'ai lu dans la Provence qui disait ce serait bien qu'il arrête de boire le café quand le latéral gauche dédouble. Bon, il est dans la ligne de mire parce qu'il était à un niveau stratosphérique depuis le début de saison. Il faut montrer de l'engagement, il faut montrer qu'on respecte les couleurs. Mais si ça gagne à Nantes aujourd'hui, qui sont deuxième demain, plus personne ne sera inquiet à Marseille.
Ok, on continue le débat dans quelques instants. Appelez-nous évidemment supporters marseillais au 32-16. Est-ce que vous avez peur? Oh oui, la France a peur. Marseille a peur pour cette rencontre ce soir à Nantes. Venez nous dire ce que vous en pensez. Et puis j'aimerais aussi avoir l'avis de notre expert mental pour justement savoir comment les joueurs peuvent se remettre après justement cette grande désillusion de la semaine dernière. Parce que vous entendrez un joueur marseillais, vous comprenez, vous allez comprendre que c'est difficile. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h28, de retour dans les grandes gueules du sport avec Marie Martineau, Cyril Linette, Jérôme Pinault et Simon Dutin. Je vois que la réalisation est à l'américaine. À chaque fois, nous sommes sur le coup. On parle de l'Olympique de Marseille. Donc forcément, nous avons des outils adéquats pour vous faire comprendre que nous parlons de l'Olympique de Marseille. Dans une dizaine de minutes, on s'en fout pas, avec beaucoup d'informations à vous donner. Et notamment, les Lensois qui ont critiqué l'arbitrage contre le Paris Saint-Germain hier. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Et puis je vous le redis, dans cette émission, nous parlerons d'Hugo Humbert, des élections américaines avec les sportifs qui s'engagent, ou encore de Max Verstappen. Restez bien avec nous. Mais restons un instant sur notre débat. Le crash face au PSG va-t-il laisser des traces? On parle de l'Olympique de Marseille qui affronte ce soir Nantes pour cette 10e journée de Ligue 1. Et je vous propose d'écouter Luis Enrique, pas celui qui n'aime pas les médias, hein, le joueur de l'Olympique de Marseille. Vous allez voir, ils ont passé une semaine difficile.
Ça a été très difficile pour nous après ce match, y compris dans le vestiaire. C'était difficile de parler entre nous. Il faut tourner la page et montrer ce que l'on est capable de faire sur le terrain et montrer qu'on est capable de reprendre le dessus. Nous devons donner une réponse le plus rapidement possible, pas seulement pour nos supporters, mais aussi pour nous, pour qu'on puisse gagner en confiance et montrer que nous avons un objectif pour cette saison et que cela n'aura pas d'impact. Il faut oublier ce qu'il s'est passé. Il faut tourner la page et tout donner pour les prochains matchs.
Et continuer à focaliser sur notre objectif là en France.
Marie Martineau, c'est souvent un peu tarte à la crème. On dit, il nous arrive comme ça, quelque chose, un résultat imprévu, et on se dit, il faut vite tourner la page, il faut vite oublier. Un, est-ce que c'est la bonne solution? Et deux, est-ce que c'est si facile que ça à faire ou c'est juste de la com?
Ça dépend déjà de comment ce match-là a été envisagé en amont. Parce que suivant la manière dont tu l'as positionné et quel objectif tu en as fait, ça va être plus ou moins difficile de passer à la suite. Après, il y a le fait qu'il y a des gens qui sont intrinsèquement plus capables de faire ça, de balayer, de mettre derrière, de regarder devant, et d'autres qui le sont moins. Donc quand tu es une équipe, c'est d'autant plus compliqué parce qu'il va falloir que tout le monde s'aligne sur la même vision et la même envie. Donc je pense qu'il y a une grosse responsabilité de management, du coach, et je ne connais pas assez De Zerbi pour savoir quelle influence il peut avoir sur son groupe à ce moment-là. Mais c'est sûr que c'est hyper compliqué parce que avec tous les outils que tu peux avoir en prep mentale, il n'empêche qu'il y a des blessures qui font mal, il y a des choses qui marquent, il y a des nuits qui où tu dors pas bien suite à ça et qui ont un impact sur tout un tas de choses derrière, le physique. Donc je pense que ce soir on aura un peu plus d'éléments de réponse, et a priori heureusement qu'il joue contre Nantes, un Nantes qui est
un facilitateur de remise en route.
Nantes a un beau joueur en ce moment, c'est très compliqué.
On aime relancer les équipes un peu en difficulté.
On rappelle que Jérôme Pinault est supporter du FC Nantes et un peu de
et beaucoup de l'OM
et un peu de l'OM. Oui, tu voulais ajouter.
Non, je voulais ajouter un truc important, c'est aussi le fait que ce groupe est jeune, tu l'as dit, ce groupe est nouveau, et quand on fait de la prep mentale, quand on fait du suivi mental, tu le sais mieux que moi Marie, on a besoin d'expérience, de temps, de data, de comprendre l'homme pour aller chercher les petits leviers, et là, il en a pas, et c'est un groupe très jeune avec des leaders de terrain et des leaders de jeu qu'il connaît à peine. En tout cas, faut connaître l'homme là, faut pas connaître le joueur. C'est là où la difficulté se fait, et surtout ce langage. Moi, ce que je retiens de Luis Enrique, ce qu'il vient de nous dire, c'est on savait pas quoi se dire dans le vestiaire. Les mecs, c'est là maintenant, il faut se parler et se dire les choses là, et comment se parler, quoi se dire pour pas tu sais pas qui est le mec d'à côté et qu'est-ce que je peux lui dire pour le relancer et pas l'enfoncer.
Mais peuvent naître aussi à ce moment-là, sur un coup dur comme ça, peuvent naître des personnalités qui se révèlent et qui deviennent des leaders. Il peut se passer vraiment des belles choses humaines.
Il y a la fierté, il y a l'humiliation que t'as subie, il y a peut-être en effet la volonté de pas passer des moments trop difficiles quand tu vas faire tes courses. Enfin bon, t'as envie de te rassurer juste. plus sur ton niveau de performance, sur ton environnement, la relation avec tes supporters. Il y a des choses qui mentalement vont leur faire du bien. Le retour de Merlin qui est fondamental depuis la qui était exceptionnel depuis le début de saison, qui fait son retour. Il y a en effet un Greenwood qui est passé complètement à côté après avoir été encensé, qui va vouloir montrer que c'était pas ce qu'on a coutume d'appeler un feu de paille et que il peut être le leader de cette équipe après tout ce qu'on a dit sur lui. Donc des ressorts comme psychologiques, ils existent. Cette volonté de se relancer, de montrer qu'on n'est pas des pimpins, qu'on a le niveau pour au moins dominer le championnat qui concerne les 17 autres équipes de la Ligue 1. Donc je pense que des ressorts sur lesquels De Zerbi peut appuyer, a pu appuyer cette semaine, il y en a quand même.
Est-ce que là c'est le rôle d'un président, toi, qui ouais. évidemment les a côtoyés, c'est le rôle d'un président de dire ok, de dédramatiser ce qui s'est passé.
Le président c'est le patron de toute façon, et on commence toujours par un escalier, on le balaye toujours par en haut. Donc le premier travail à faire dans la semaine, c'est le travail du président. On a vu Pablo Longoria, on a vu une image furtive à la fin du Classico, il était défait. On sait pourquoi. C'est un type très émotif, qui est passionné. Il explique très bien cette interview dans l'équipe d'il y a 10 jours. Je vous invite à la relire pour ceux qui l'ont pas vu. Il explique ce que c'est qu'un passionné de foot qui devient président et qui apprend justement à sortir un peu du court terme. Le rôle de Pablo Longoria cette semaine a été probablement effectivement de renforcer son entraîneur, de le rassurer, de lui dire t'as ma confiance, c'est pas un match, on est là pour j'espère plusieurs années ensemble, ce qu'il a pas démontré jusqu'à présent, et puis de rassurer l'environnement. C'est là que l'histoire de Papin ça aide pas, parce que ça vient un peu impacter. On sait bien que voilà, Jean-Pierre Papin c'est une légende, donc Pablo Longoria, même si l'objectif peut-être la performance de Papin, il aura jamais complètement raison face à un environnement marseillais, face à une légende comme JPP. Donc je pense que c'est des choses de management qui sont difficiles à faire. Ils doivent avoir hâte que le match de Nantes se passe, et s'il le gagne, il pourra reprendre.
Là, y a pas le droit. En revanche, il n'y a pas le droit à l'erreur ce soir. On rigole. Moi, je dis c'est Nantes est un club qui relance bien les gens en difficulté. Si ce soir, il y a contre-performance de nouveau, entre l'affaire Papin qui va continuer.
Et pas droit à l'erreur sur l'affaire Papin, donc qui doit trancher demain, puisque je crois que c'est demain.
Il doit trancher demain. Et tu sais mieux que moi que c'est quand même plus qu'une affaire Papin. C'est une affaire Mehdi Benassia et son clan, ouais. et les anciens de Marseille.
Oui,
et
mais alors il n'est pas interdit de penser que le domaine purement sportif ait été justement un petit peu épargné. Troublé. Parce que tout le monde a regardé justement sur cette du côté de Papin, Zarac, Longoria, que va-t-il se passer. Peut-être que De Zerbi a pu bosser un peu plus tranquillement.
Ce qu'il faut surtout éviter, c'est que la contre-performance, c'est que tout le monde se cache derrière toutes ces petites histoires et qu'on oublie le terrain, que les joueurs oublient de refaire leur métier de performer ce week-end. Parce que de toute façon, et quoi qu'il arrive dans n'importe quel club et dans n'importe quel sport, le résultat du match d'après, de la compétition d'après, fera oublier en grande partie, s'il est bon, ce qui s'est passé avant. Donc le meilleur moyen pour réussir et pour sortir de ça très vite, même si tout sera pas guéri, c'est de gagner ce soir.
Mais l'analyse, c'est quoi? C'est des individualités dans cette équipe qui n'étaient pas à la hauteur du rendez-vous, ou c'est la proposition tactique de Zerbi qui n'était pas la bonne?
D'où mon interrogation sur jusqu'à quand l'impunité de Zerbi, jusqu'à quand on va lui laisser l'impunité, plein pouvoir.
Il est là depuis deux mois, l'impunité.
Non mais Cyril, là, aujourd'hui c'était un génie jusqu'à dimanche. Non. On a dit il est en train de faire jouer l'OM, mais ça va changer. Ok, là dimanche, premier gros match. Forcé de constater qu'il s'est trompé quand même.
Mais ce sont les médias, l'environnement, les médias qui ont les yeux de l'amour pour l'OM, les médias qui, comme l'a dit Simon, attendent tous enfin que le PSG soit plus dominant. Vous attendez tout ça à longueur d'émission. Mais ça, c'est les médias et l'environnement marseillais. De Zerbi, c'est un entraîneur qui a pas une expérience extraordinaire, qui n'a rien gagné pour le moment. C'est un choix fort de Pablo Longoria qui dit maintenant, je suis là, je ne veux plus changer d'entraîneur tous les ans. Si on commence à le fragiliser parce qu'il a perdu contre le PSG, qui a évidemment un background et des performances bien supérieures à l'OM, l'OM va pas s'en sortir. Ouais. Là, ce serait effectivement catastrophique.
Ouais, mais bon, là. Et c'est De Zerbi, parce que c'était un entraîneur très convoité, que les hipsters du foot nous vendent comme un génie absolument révolutionnaire.
Mais pour l'instant, il n'a pas encore un palmarès, il n'est pas complètement assis sur une.
D'accord, mais je veux dire, ça paraissait inespéré de l'attirer.
Oui, c'est sûr.
Quand tu remontes un poisson comme ça dans le bateau sûr. Marseillais, tu ne sais pas pour le vider au bout d'une défaite face
à. Oh, tu sais. C'est déjà arrivé. Il y a Laurent qui nous appelle au 32-16, supporter marseillais. Il veut intervenir dans cette émission. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Salut Laurent. Bon, la question initiale, c'était le crash face au PSG. Va-t-il laisser des traces? Tu en penses quoi?
Ça fait 35 ans que je supporte ce club. À 10 journées de championnat, si on gagne ce soir, on est à 20 points. On est deuxième du classement. Ouais. On a fait 10 journées. On a joué 4 fois en infériorité numérique. Il n'a pas aligné une seule fois la même défense en 10 journées. Il y a quand même, j'ai connu des saisons beaucoup plus pénibles. en tout cas des débuts de saison beaucoup plus pénibles. On tombe sur, vous venez de tomber sur De Zerbi en parlant de hipster, etc. Alors si Guardiola est un hipster du football, parce qu'il il dit de lui que c'est alors oui, effectivement, pour l'instant, on n'a pas vu la patte. Oui, mais bah, avec quelle équipe? Avec quelle équipe? Avec Brighton? Avec Sassuolo? Compliqué de gagner des titres avec Brighton et Sassuolo.
C'est une expression que j'aime bien, c'est parce que justement c'est les gens, tu sais, qui jouent à Football Manager ou à ces jeux de simulation et qui
connaissent tous les joueurs du championnat slovaque.
Ouais. Ou alors
c'est des clubs qui l'ont recruté, Sassuolo et Brighton. Si pour le moment il entraînait Sassuolo et Brighton, c'est parce que ni le Bayern, ni Real Madrid, ni Liverpool, ni personne ne lui a proposé un club supérieur. Donc c'est encore un jeune entraîneur prometteur.
Et à mon humble niveau de connaissance, je suis admiratif de ce qu'a proposé De Zerbi à Sassuolo et lors de sa première saison à Brighton. Mais c'est simplement que parfois on t'explique que tel joueur qui a fait une seule saison ou tel entraîneur qui s'est révélé dans tel club, bon voilà, c'est la solution à tous les problèmes de tous les clubs en Europe. Bon voilà, De Zerbi, il doit encore faire ses preuves à l'étage supérieur, et moi je ne le critique pas, je considère que c'est une chance inespérée pour l'OM de l'avoir attiré.
Laurent, pour terminer.
Ouais, juste pour finir, on est... On dit de nous qu'on est impatient, etc. Et là, on est en train de, entre guillemets, fragiliser De Zerbi. Donc, essayons pour une fois de retenir les leçons du passé, de le laisser travailler tranquillement et de faire le point déjà à mi-saison quand il aura récupéré. Vous en avez parlé tout à l'heure, par exemple, Merlin, qui est, entre guillemets, indispensable à son schéma tactique. Et essayons de finir un match à 11. Au moins ce soir, pour voir ce que ça donne.
C'est toujours mieux, hein, mais bon, ça vous a pas empêché de gagner à Lyon, même à 10, hein, mais tu as raison, c'est toujours mieux à 11.
Le match, on peut le jouer 100 fois, on le perdra 99 fois.
Bon.
La foudre est tombée au Groupama Stadium, tant mieux pour nous, mais ça marche pas.
Tu sais quoi, Laurent? On est d'accord avec toi, promis-nous médias, on sera patient avec Roberto De Zerbi, on va attendre un match.
Il faut attendre trois, il faut attendre 4 journées, dans 3 journées tu joues Lens à Lens et dans 4 journées tu joues Monaco à domicile, donc là tu vas savoir.
Allez, merci Laurent d'avoir composé le 32-16. Le match c'est ce soir 20h45 pour clore la 10e journée de Ligue 1, et c'est à suivre évidemment sur RMC à partir de 20h, coup d'envoi 20h45.